Vous êtes né dans le quartier Saint-Roch.
À chaque fois qu'on rencontre un Montpelliérain, qui que ce soit, tout le monde a une espèce de nostalgie de ce quartier.
Et j'y ai donc vécu les 10 premières années de ma vie.
Racontez-nous votre Montpellier.
Vous changez de lieu dans Montpellier, vous changez d'univers.
Une émission proposée par Alain Doudiès pour partir à la rencontre des Montpelliéraines et des Montpelliérains.
Je vous signale tout de suite, mesdames et messieurs, que je vais parler pour ne rien dire.
Amis auditeurs et auditrices, bonjour. Dans Montpellier, sur les panneaux indicateurs qui organisent la circulation, comme aux arrêts du tramway, on lit Mausson. Où est donc passée la paillade ? Bien sûr, il y a le stade de la Mausson à forte notoriété, avant que son rayonnement soit effacé par le futur stade Louis-Nicolin. Mais qu'est devenue la paillade, comme les anciens Montpelliérains appellent ce quartier ? Qu'est-ce que la paillade aujourd'hui ? Pour le savoir, j'ai invité un pailladin vrai de vrai, Henri Quatrefage. Henri Quatrefage, bienvenue.
Bonjour.
Dans votre parcours de plus de 40 ans à la paillade, se croise une série d'engagements. Celui de l'instituteur, puis de professeur des écoles, et ensuite de chef de service éducation de la ville de Montpellier, en charge de la gestion des agents qui interviennent dans la vie quotidienne des écoles. L'engagement d'un éducateur sportif au sein de l'UFOLEP, on en parlera, et enfin l'engagement d'un infatigable acteur de la vie associative, notamment au sein d'une association que vous avez créée à l'époque, l'association Phobos Paillade Nord. Mais racontez-nous d'abord votre Montpellier en général. Quels sont les lieux que vous aimez particulièrement, auxquels vous êtes attaché là, quand vous vous promenez dans Montpellier ?
Bien, bonjour. Je ne sais pas si je vais raconter Montpellier en général, je vais le raconter en fantassin.
Oui, c'est ça.
Voilà.
Piéton de base.
Voilà. Donc, mon Montpellier, c'est la paillade. Voilà, j'habite la paillade depuis plus de 40 ans. C'est mon Montpellier. Montpellier étant un quartier périphérique de la paillade, à part que ce soit l'inverse. Donc, je ne vais à Montpellier que par inadvertance. Je suis vraiment un pailladin. Mais j'aime m'y promener, comme aujourd'hui, venant à divergence avec ma petite moto. J'aime balader dans les rues, dans les boulevards. J'aime son centre-ville. J'aime son soleil. J'aime les allées. Voilà, j'aime tout de Montpellier, même si, comme beaucoup de Montpelliérains, je suis né dans un village périphérique à Clermont-l'Hérault.
Oui.
Je n'y suis venu que pour faire des études d'instituteur. Et puis j'y suis resté. J'y suis bien. Je suis bien à Montpellier. Je suis bien à la paillade.
Et vous êtes resté à la paillade, bien qu'étant à la retraite depuis quelques années, quoi. Vous auriez pu choisir d'aller ailleurs ou de revenir à Clermont-l'Hérault, par exemple.
Alors, petite coquetterie. J'ai habité à Heidelberg. J'ai habité à Barcelone. J'ai habité à Oxford. Sans quitter la paillade, puisque ce sont le nom des écoles de la paillade. Et l'instituteur, comme peut-être certains l'ont oublié, était un fonctionnaire logé. Donc quand je suis arrivé sur le marché du travail au milieu des années 70 en tant qu'instituteur, bien évidemment, je rêvais de retrouver un village. Je me sentais l'âme rurale. Sauf qu'à cette époque-là, c'était beaucoup plus difficile. C'est-à-dire que les villages périphériques accueillaient justement notamment les pailladins, les instits qui, compte d'épargne plein, allaient bâtir dans les villages périphériques. Et donc, il m'est resté la paillade. Et de façon paradoxale, à part que ce soit l'inverse, j'ai retrouvé à la paillade, plus exactement près de la cité Phobos, tout ce que j'espérais trouver en qualité d'instituteur dans un village. J'ai été l'instituteur de la cité Phobos.
Voilà. Alors, donc, la paillade village, on va y revenir. Alors, il faut expliquer Phobos à nos jeunes auditeurs qui n'ont pas connu ce qu'était Phobos. Rafraîchissez nos mémoires sur Phobos.
Si j'attaque en tant qu'instit, je dirais que Phobos et Deimos sont les satellites de Mars. Et si j'étais Montpelliérain, je dirais que Phobos est une cité, une magnifique cité qui se trouvait en haut de la paillade, construite. Je pense comme le reste de la paillade là, dans les années 60 pour accueillir des gendarmes, pour accueillir Sanofi et qui insensiblement s'est refermée sur une population plutôt d'immigration récente. Cette cité, j'ai connu le précurseur, ce qui a devancé les fameux ANRU, Agence Nationale de Rénovation Urbaine. J'ai connu les projets HVS, Habitat et Vie Sociale, qui tentaient de réhabiliter ce quartier, de l'améliorer, de le rénover. Et faute de le rénover, eh bien, mon village a été rasé.
Ce qui ça, explique... c'était quand ?
Alors, je pense que ça date des années 90. Dans les années 90, la cité Phobos a été rasée.
Et à la place, qu'est-ce qu'on y trouve aujourd'hui ?
Alors, on y trouve d'autres bâtiments, des habitants de HLM, des petites villas, en tout cas beaucoup plus bas, même si la cité Phobos ne culminait qu'à 4 étages. Mais il y avait de gros appartements, des familles nombreuses, et là, ce sont des pavillons que je trouve un petit peu trop collés les uns à côté des autres.
Ça manque d'air, enfin, de circulation, d'espace public partagé.
Il manque certainement de l'espace, mais trône toujours à l'entrée du quartier ce magnifique château d'eau qui était le repère de la cité Phobos.
Ah oui, là, donc ça, les gens peuvent se repérer donc, avec le château d'eau qui est toujours là, dans la partie haute de la Paillade, en vis-à-vis des Hauts-de-Massane, grosso modo.
Alors, ça s'appelle un petit peu les Hauts-de-Massane. En tout cas, ce sont les Hauts-de-Grabel, puisque l'ex-cité Phobos domine effectivement Grabel et la Mosson.
Voilà, c'est un haut, avant qu'on redescende vers Grabel.
Ou Juvignac.
Ou Juvignac. Alors... Vous racontez votre parcours, donc on va y revenir dans un livre publié en 2021 aux éditions Domaine. Ce livre, je ne vais pas faire semblant de l'avoir lu, mais je vois un peu le contenu, on va en parler. Il s'appelle, son titre c'est « Coïncidence ». Pourquoi coïncidence ? Au pluriel, bien sûr.
Pourquoi coïncidence ? J'aime les mots, j'aime le verbe. Voilà. C'est même ma réputation, ma mauvaise réputation dans les associations. Je pense que la langue, le verbe, les mots sont essentiels et importants. Et dans ces mots, le mot coïncidence, je l'aime, je l'adore. Et s'il m'est venu pour intituler ce livre, même si ça n'a pas trop... dans un premier temps, intéressé mon éditeur, qui aurait bien voulu le changer, j'ai tenu bon. Ça s'appelle « Coïncidence ». L'histoire de ce livre, elle est relativement simple. On devait être dans les années 2018. J'étais dans l'amphithéâtre de Pierre-Vive, à la Paillade, ou presque. Aux ordres du gouvernement, le préfet avait réuni le banc et l'arrière-banc de tout ce qui compte d'associations, d'institutions, parce qu'il fallait faire le bilan de 40 années de politique de la ville. Chaque département y était assigné. Nous y étions, j'y étais. J'étais dans cet amphithéâtre, en vieux de la vieille. Et ces 40 années de politique de la ville, je pense que quelques regards se sont tournés vers moi pour dire, ah ben tiens, Henri, il a quelques petites choses à dire sur cette politique de la ville. Eh bien, je suis resté silencieux parce que tout à coup, je me suis rendu compte que ces 40 années de politique de la ville qui étaient censées fêter cet anniversaire-là, eh bien... C'était mon anniversaire personnel. Pourquoi ? Parce que 2018, 40 ans de politique de la ville, mais depuis 40 ans, j'habitais le quartier de la Paillade. J'y suis arrivé en 1978, je vous le disais tout à l'heure, dans un appartement de fonction à la Paillade, l'école Heidelberg, refusant un appartement du centre-ville pour un appartement dans les quartiers neufs, avec baignoire, magnifique, alors que les appartements de fonction du centre-ville ou du quartier des Aubes que j'avais visité ne me plaisaient pas. 40 ans de politique de la ville, 40 ans d'habitants à la Paillade. Mon fils aîné est né l'année où j'arrivais à la Paillade. Mon fils second, Pierre, est né quelques années plus tard, toujours à la Paillade. Pendant 40 années, j'étais un militant associatif. Pendant 40 années, j'ai été dans les écoles à différentes fonctions. Pendant 40 années, j'ai suivi les projets politiques de la ville, les ZEP et autres REP et autres RAR de ce qu'est la politique de la ville. Et donc, cette coïncidence-là, entre 40 années de politique de la ville et 40 ans d'habitants de la Paillade dans des fonctions d'enseignants, de militants associatifs, cette coïncidence-là, j'ai voulu la transmettre et la faire partager à mes amis, aux animateurs des associations dans lesquelles je suis militant.
Alors, au passage, politique de la ville, bon, j'explique, hein, c'est une nomination officielle, bon, vieille de plusieurs décennies, qui couvre un certain nombre de politiques publiques de l'État, associées ou pas à d'autres partenaires, collectivités locales ou ailleurs, HLM par exemple. Donc, qu'il n'y ait pas confusion, ce n'est pas la politique, c'est pas la ville en général, c'est des politiques publiques sur les quartiers, hein, disons, qu'on appelle en difficulté, un certain nombre de moyens ont été réunis, mais on y reviendra là pour aider ces quartiers à mieux évoluer. Alors, le sous-titre du livre, mais qui raconte déjà quelque chose. C'est un quartier, on l'a vu, un métier, un engagement. Le métier, c'est enseignant. En quoi ce métier a-t-il structuré à la fois, je dirais, vos différentes actions, bon, que vous avez évoquées, sur lesquelles on reviendra, et puis un enracinement à la paillade, en quoi ça a été structurant, pas simplement comme un métier que vous faisiez, j'imagine, avec passion, mais également comme manière de vous enraciner, ou peut-être de trouver une légitimité particulière au service des habitants, quoi.
Enracinement est peut-être le bon terme. Je vous disais tout à l'heure, pour plaisanter sérieusement, que j'avais habité Heidelberg, Barcelone, Oxford, donc les écoles de la paillade. L'instituteur était un fonctionnaire logé. Et donc, quand j'arrive au milieu des années 70, je suis un fonctionnaire logé. J'habite le quartier. Je suis le juste héritier de ces générations d'instituteurs que certains appellent les hussards noirs de la République. Donc, banalement, voulant être instituteur de village, j'ai trouvé mon village dans ce milieu populaire. Je suis l'instituteur. Je suis l'instituteur en classe, bien évidemment. Je suis l'instituteur en dehors de la classe aussi. Et banalement, je fonde avec mes élèves une association. Vous la citiez tout à l'heure, association Jeunes Faubas Paillade Nord. Je n'y suis pour rien. Je suis une victime de la demande de mes anciens élèves. On était partis 3 semaines en classe de neige. Ça a été fabuleux.
Ah oui, ils découvraient la montagne pour la partie, comme
alors,
tous.
Les gosses de la cité Faubas de ma classe, à 10 ans, découvraient la montagne et le ski. Mais moi, à 25, aussi. Je n'avais jamais skié. J'ai appris avec eux. Nous avons passé 3 semaines au mois de janvier. Dans les sommets des Pyrénées catalanes pendant 3 semaines. 2 ans plus tard, les élèves sortant du collège sont venus me voir et m'ont dit... Alors, il y en a un qui a son petit bout de célébrité, Habib Deschraoui, qui m'excusera de le citer, le directeur du Nisson et le créateur d'Arabesque, vient me voir à 12-13 ans en me disant « Maître, on aimerait retourner au ski. »
Attendez. Ils sont revenus voir leur ancien instit. Pas toujours le cas. Moi, je l'ai fait. Je suis allé voir mon ancien instit à la fin de ma 6e, en gros, pour faire une espèce de bilan. Mais cette démarche collective, pour le coup, avec ensuite l'action elle-même collective que ça a produit, c'est... Bon, convenez-en, ce n'est pas banal, ce n'est pas habituel. On peut faire très bien son métier, on s'arrête à 17h, ou on a peut-être quelque chose à faire après, ou des copies, ou je ne sais quoi, mais pas plus, quoi.
Je pense que c'est d'une banalité absolue pour ma génération. Je pense que les choses ont évolué. Il n'y a pas de nostalgie, il n'y a pas de coupable, il n'y a pas de responsable. C'est une réalité. L'institut des années 70 à la paillade, dans un quartier neuf qui se structure avec les écoles, a des instituts. Et je peux vous en parler. Ces instituts-là habitent le quartier, scolarisent leurs gosses dans le quartier, font leurs courses dans le quartier, font des activités de loisirs dans le quartier, font du sport dans le quartier, sont visibles par les parents, par les élèves. Et il y a autant de réunions dans les rayons du supermarché que des réunions à l'école. Donc ces élèves-là qui viennent me dire « Maître, on aimerait retourner au ski », on fonde l'association dont vous avez parlé, dont la première action a été ensuite chaque année d'aller faire du ski. Donc l'instit est enraciné, si vous permettez ce détour historique. Les pères fondateurs de l'école laïque ont inventé cet instituteur, que les laïcars m'excusent, sur le modèle du curé. Oui. C'est-à-dire le curé avait son presbytère et son jardin, l'instit aurait son appartement de fonction, plutôt que d'être près de l'église, il était dans les locaux de la mairie, et qu'on regarde tous les villages et les vestiges de cette magnifique façade municipale, où vous avez en bas, à droite ou à gauche, c'est de l'humour, la salle du conseil municipal. De l'autre côté, vous avez la salle de classe. À l'étage, le secrétariat de mairie. Et en face du secrétariat de mairie, l'appartement de l'instit. Donc l'instit faisait partie du village. Donc l'enracinement dont vous parliez, le voilà. Je l'ai reproduit, je l'ai transmis banalement en tant qu'instituteur. La rupture qui est logique, normale, naturelle. Dans mon parcours, vous dites que j'ai été instituteur puis professeur des écoles. Oui.
Oui, parce que la dénomination officielle a changé. Et puis je ne sais pas si ça a changé la manière de vivre le métier, en tout cas pour vos jeunes collègues.
Fondamentalement. Peut-être qu'on a chacun... une façon de voir les choses et le monde. Pour moi, l'évolution fondamentale du passage d'instit à professeur des écoles, c'est fabuleux pour les collègues devenus profs d'école parce que ce sont des fonctionnaires catégorie A, l'instit était catégorie B, mais le prof d'école n'est plus un fonctionnaire logé. Donc l'hypothèse d'avoir un instituteur qui partage le lieu de vie de ses élèves et des parents d'élèves disparaît.
Il y a quelque chose qui s'est perdu, donc.
Alors, qui s'est perdu, encore une fois.
Qui s'est modifié, en tout cas.
Voilà. Alors, est-ce que c'est mon incapacité ou est-ce que c'est la réalité? Il n'y a pas de coupable, il n'y a pas de responsable. Quand l'Institut devient prof d'école, il est déjà parti du lieu d'habitation de ses élèves. Moi, je reste quand même, encore une fois, pas de nostalgie, mais il y a quand même quelque chose d'exceptionnel de cette école qui, quelques dimanches par an, se vider de ses élèves, se voit investi par des isoloirs et des urnes, et c'est dans ce lieu que l'on vient choisir l'école que l'on souhaite. On vient mettre son bulletin dans l'urne, l'instituteur comme les parents d'élèves. Donc ce lieu école, avec l'appartement de fonction, avec le secrétariat de mairie, avec le conseil municipal, c'est ce lieu fondateur un petit peu de la République, comme l'école est fondatrice de ce qu'on veut faire advenir en termes de citoyens éclairés. Donc l'Institut est devenu prof d'école. Pour moi, c'est quelque chose d'important. Vous avez eu la gentillesse de citer mon livre. Dans ce livre, je cite quelques propos de Jules Ferry. Jules Ferry, en 1883, écrit à chaque Institut de France. Et il leur dit, j'ai voulu que vous viviez parmi vos élèves pour montrer comment vous vivez devant eux.
D'accord.
Et il ajoute un truc qui est phénoménal. Il ajoute, ce n'est pas à l'intérieur de la classe que vous jugerez le mieux de votre travail, mais dans le comportement de vos élèves à l'extérieur de l'école.
Ah, donc,
c'est fabuleux.
Ah, oui,
on est en 1883.
En plus, ça fait écho, bien sûr, à bien des débats sur l'école aujourd'hui, mais bon, on n'a peut-être pas le temps de développer. Un autre volet important d'engagement, c'est l'éducation populaire par le sport au sein de l'UFOLEP. Alors, j'ai retrouvé sa dénomination historique, bon, Union française des œuvres laïques d'éducation physique. Alors, dénomination qui fait un peu vieillotte, mais qui me semble exprimer des valeurs d'aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, vous présidez l'UFOLEP Hérault, vous êtes également vice-président national en charge de la thématique sport-société. Cette orientation, cette activité que vous avez eue dans ce champ-là, là, comment fait-elle sens ou comment est-elle, encore une fois, cohérente avec ce que nous avez dit de votre engagement d'institut puis de prof des écoles?
Je vous le concède, UFOLEP, ça sent un peu la naphtaline.
Oui, bon.
Mais interrogeons nos cousins des Francas, des CMEA, la dénomination sans effectivement l'histoire, le passé. D'ailleurs, quand on me demande d'épeler le sigle, j'ai un petit sourire au coin de ma moustache et donc je me trompe toujours. Je ne sais plus s'il faut dire Union française des œuvres laïques d'éducation
physique
populaire ou
physique,
d'éducation physique.
C'est ça, oui.
Voilà, j'hésite un petit peu. En tout cas, l'UFOLEP, on le sait peu, est une fédération sportive qui appartient au monde olympique et sportif.
Qui est toujours lié à la Ligue de l'enseignement?
Alors, non seulement lié, mais cette vieille maison de la Ligue française de l'enseignement, qui a plus de 150 ans, en 1928, a eu la bonne idée de se doter d'un bras sportif. 1928. C'est-à-dire que la pratique de l'éducation physique et sportive en 1928 au sein de la Ligue française de l'enseignement, c'est vraiment les valeurs de l'éducation populaire. Et d'ailleurs, l'UFOLEP, je vous le disais, est une fédération sportive, mais que depuis 1980. Années 80,
c'est
tout récent.
Le label officiel de fédération sportive.
Le label de fédération sportive, c'est en nombre de clubs la première fédération sportive. Alors là, sans jargonner, il y a, vous le savez peut-être, deux grandes catégories de fédérations sportives. Les délégataires, le foot, le rugby, le tennis, c'est-à-dire que l'État délègue à ces fédérations l'organisation du sport et leur promet qu'il n'y aura aucune concurrence. L'UFOLEP est une fédération affinitaire. C'est magnifique, sauf que nous ne recevons pas de délégation. Elle est affinitaire et multisport. à l'UFOLEP, on peut pratiquer plus de 80 disciplines sportives. Notre logo...
Notre slogan,
oui. Une certaine époque était une autre idée du sport et on a changé, c'est tous les sports autrement. Voilà, c'est-à-dire qu'il y a effectivement une pratique sportive, il y a de la compétition au niveau départemental, régional, national. Nous n'envoyons pas des athlètes aux Jeux Olympiques. En revanche, on propose le loisir. Il y a, pour symboliser et peut-être bien me faire comprendre au niveau de l'UFOLEP, il y a un projet que l'on promeut autour du sport santé, du sport loisir. Et on l'a appelé UFO 3S. UFO, vous l'imaginez, absolument pas comme les objets volants non identifiés, mais comme UFOLEP. Et les 3S, quels sont-ils? Alors absolument pas comme le Club Med Sex Sunsea, ni comme l'Armée du Salut, Soupe Savon Salut. Mais pour nous, ces 3S... c'est sport, santé, société. Ça dit tout de l'UFOLEP. C'est-à-dire que ce mouvement d'éducation populaire, le définir, c'est compliqué. On va dire rapidement l'éducation du peuple, pour le peuple, par le peuple. Donc ce mouvement d'éducation populaire qui veut des citoyens éclairés, qui ait le droit à la formation, au loisir, à la rencontre de l'autre, à l'émancipation, qui veut des citoyens éclairés et responsables, cette promesse de ces 3S, c'est que nous choisissons le sport. Et si vous me cherchez, je vous expliquerai pourquoi on choisit le sport. On choisit la santé, non pas comme un bien-être suprême. Non, on ne confond pas la santé et le bonheur. La santé est au service du bonheur, et pas l'inverse. Et puis, avec ce moyen d'éducation populaire, cette santé qui va être physique et personnelle, qui va être aussi mentale, être bien dans sa tête, mais aussi bien... dans le rapport à l'autre, on ajoute le troisième S qui est fondamental, c'est le S de société. C'est-à-dire qu'advienne une société, celle qu'on défend.
Alors, le temps s'écoule très vite. Revenons quand même à la paillade. Alors, on va être obligé de le faire d'une manière trop rapide, peut-être abrupte. Où en est la paillade aujourd'hui? Comment vous décrivez la situation actuelle du quartier ou peut-être des différents quartiers dont la paillade est composée?
Combien d'habitants, selon vous, à la paillade?
Je parle autour de 20 000.
Bravo. On cite parfois 45 000. C'est un vieux panneau qui était à l'entrée, tout ça. Donc, vous n'êtes pas loin de la vérité. C'est un peu plus de 25 000 habitants. Vous avez raison la deuxième fois. Ce n'est pas un quartier, ce sont des quartiers. Je vous ai dit avoir habité plusieurs lieux de la paillade. Et effectivement, la plaine... l'origine historique, les premiers immeubles de la paillade, en bas de la paillade, a une certaine situation relativement complexe, avec son grand mail, mais aussi avec son fabuleux marché, avec sa...
Donc c'est
sa...
du samedi, c'est ça?
Non, c'est toute la semaine.
Ah, toute la semaine.
Mais le samedi, voilà, vous aurez du mal à vous garer, venez en tram. Voilà, c'est sa maison pour tous, ses commerces, son entrée, sa piscine, même si elle est fermée pour un an. Et donc, le bas de la paillade, pour moi, la plaine, a une certaine configuration. Et dans cette plaine-là, il y a aussi tous les quartiers ne se valent pas. Il y a les coteaux ensuite. Les coteaux, c'est un quartier de villa, j'y habite maintenant, c'est une autre configuration. Peu de commerce, du résidentiel. Et puis... le plateau. Le plateau, c'est autre chose, avec les tours qui ont disparu, avec, on en parlait, la cité Phobos. Donc, déjà, en termes géographiques, la plaine des coteaux, le plateau, trois géographies différentes, trois types d'habitats. Et puis, cette magnifique constellation d'habitants, dont les immeubles portent le nom de constellation aussi, les Gémeaux, le Cérès, Uranus, Saturne, effectivement... il y a des quartiers spécifiques et différents dans cette paillade.
Alors, encore une fois, il ne nous reste que 2 ou 3 minutes. Quelles sont les raisons, je dirais, de s'inquiéter et peut-être aussi les raisons d'espérer, hein? Bon, encore une fois, bon, autour de la paillade, ancienne formulation, il y a des idées reçues, probablement, il y a une certaine image, comme on dit. Aujourd'hui, quand vous rencontrez des personnes qui vous disent « Et alors, qu'est-ce que tu deviens? Que devient le quartier ?» Que répondez-vous?
Vous ne me demanderez pas ce que je pense de la paillade et de la Mosson.
Ben si, pour le coup, alors, oui, parce qu'on a effleuré le sujet à plusieurs reprises.
Pour faire vite, voilà, vous parlez d'ancienne appellation. Si vous le permettez, je lis 5 lignes de mon magnifique ouvrage. Ça s'appelle « La paillade n'existe pas ».
Ah ben voilà.
Georges Frêche, un bon maoïste, persuadé qu'en changeant le nom, on change la réalité, donna à la paillade, sans consultation aucune, un nouveau nom, la Mousson. Après les écoles de la ville et les lycées de la région, il tentait de renommer un quartier de Montpellier. La paillade n'existerait plus, et avec son nom disparaîtrait son image et sa renommée. Aujourd'hui, c'est un fait. La paillade des panneaux routiers, des responsables de la ville et de leurs discours, des répertoires officiels et des adresses postales n'existe pas. Paradoxalement, la volonté d'effacer la paillade est venue confirmer un nombre infini de paillades, souvent indépendantes les unes des autres. Au fait historique et géographique, la paillade, qui s'exonère de spectateurs, s'ajoute celle de Georges Frêche, la mienne et peut-être la vôtre. Je me sens proche de la pensée de Marcus Gabriel, qui précise pourquoi le monde n'existe pas. L'existence est liée à quelque chose qui survient dans le monde. Cela signifie par conséquent qu'une chose n'arrive dans le monde que si elle surgit dans un domaine, un champ de sens. Donc dans mon champ de sens, comme dans celui de beaucoup d'habitants, la paillade existe. Et on ne peut pas barrer ce nom. La tentative politique de Georges Frêche est très compréhensible. En revanche, la paillade est toujours une appellation. Alors, la réalité officielle, c'est qu'il y a un ensemble qui s'appelle le quartier Mousson, qui serait constitué de trois entités. Celle-Neuve, la paillade, Léo de Massa.
Et Léo, d'accord.
Voilà. Donc, ça, c'est la version officielle. En réalité, la paillade est vraiment l'ensemble qui suit l'ensemble du quartier historique. Voilà.
Alors,
ensuite, voilà. La question. La paillade, je m'y sens bien. La paillade, je la traverse, je fais mon footing quand ma hanche me laisse tranquille. La paillade, quelle réputation a-t-elle ? Si on sort loin de Montpellier, c'est le foot.
Tout à fait.
C'est Nicolin.
C'est Nicolin, sachant que le club s'appelait la paillade à ses débuts.
Voilà. Ce qui veut dire que le départ du stade n'est pas rien pour compenser l'image de ce quartier. Ce quartier est un quartier très populaire. Je ne voudrais pas qu'il ne soit marqué que par le football ou l'exotisme de son marché. La paillade est un quartier populaire où il fait bon vivre. Ce qui est incroyable, c'est que toute personne qui a vécu, que ce soit les instituts dont je parlais tout à l'heure, les jeunes qui ont fait leur scolarité, qui y sont nés, il y a un attachement phénoménal à ce quartier. Il y a une réelle identité très très forte. Et quand on interroge les jeunes, ceux qui y habitent disent « on s'y sent bien, on y trouve de tout, il y a de la solidarité ». Le Covid l'a montré. Quelle magnifique solidarité dans le quartier. En revanche, c'est vrai. Il y a un problème, alors peut-être que le problème n'est pas le bon terme, mais la mixité sociale, la difficulté face à l'emploi, à la formation, est une réalité. Comme je suis ou j'ai été instit, en tout cas, la préoccupation des écoles dans lesquelles beaucoup de parents, de jeunes parents, n'ont pas confiance. Vous savez certainement que dans le choix de résidence, l'école du quartier est prioritaire. On n'a pas confiance suffisamment dans les écoles du quartier, malgré des instituts devenus profs d'école qui font des prouesses en termes d'apprentissage. Donc la paillade, franchement, c'est un quartier où il fait bon vivre. Il y a... Alors je marche chaque fois dans la combine, donc je vais continuer à marcher dans cette combine-là. Il y a un fabuleux projet de rénovation urbaine. Pour la première fois, me semble-t-il, l'axe nord-sud va être compensé par une vision est-ouest entre le Rio Tor et la Mousson. Il y a la volonté, là aussi ça m'intéresse, d'avoir des écoles qui seraient à inter-quartier. Et je sens que je suis trop bavard.
Écoutez, on aura peut-être l'occasion de vous inviter une nouvelle fois, Henri Quatrefages, parce qu'en effet, il y avait beaucoup à dire, bon, notamment sur le projet dont vous parlez, et puis de chasser les clichés, de montrer, bien sûr, il y a des difficultés à la paillade, bien sûr, il y a de la drogue, bien sûr, il y a des difficultés économiques, et notamment, me semble-t-il, et je vous propose qu'on finisse là-dessus, parce que ça fait boucle avec votre parcours, ce que nous avons dit, c'est l'avenir des jeunes de la paillade, hein.
Il y a un magnifique réseau associatif pour boucler la boucle, si vous le permettez, en parlant de l'UFOLEP. J'étais jeudi soir dans le centre social CAF de la Paillade qui accueille ce qu'on appelle l'accueil jeune UFOLEP. Il y a dans ce lieu 80 jeunes de 14 à 17 ans. Il y a autant de filles que de garçons qui fêtaient les 7 ans de cet accueil jeune qui se réunit en soirée le mercredi, le samedi, qui cet été était dans un refuge de montagne. Donc il y a de très belles choses à la paillade et je crois qu'il va falloir observer avec vigilance. Je fais partie aussi du conseil de quartier avec les habitants du quartier. Il y a un fabuleux projet de rénovation urbaine qui porte beaucoup d'espoir pour l'avenir de ce quartier.
Terminons cette route d'espoir. Merci beaucoup, Henri Quatrefages. Et peut-être une prochaine fois. Vous êtes né dans le quartier Saint-Roch.
À chaque fois qu'on rencontre un Montpelliérain, qui que ce soit, tout le monde a une espèce de nostalgie de ce quartier.
Et j'y ai donc vécu les 10 premières années de ma vie.
C'était Racontez-nous votre Montpellier.
Vous changez de lieu dans Montpellier, vous changez d'univers.
Une émission proposée par Alain Doudiès sur Divergence FM.
Je vous signale tout de suite, mesdames et messieurs, que je vais parler pour ne rien dire.